RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, vous allez écouter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. La rubrique suivante, magazine culturel et apprendre l'Indonésien. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le ministre indonésien des Affaires étrangères accepte le certificat de l'UNESCO pour le bateau Pinisi. Le reine Maxima apprécie les finances inclusives en Indonésie. L'Indonésie offre une contribution au rapatriement des Rohingyas. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'art de la construction navale Pinisi à Sulawesi du Sud est désigné comme l'un des patrimoines culturels immatériels mondiaux le 7 décembre 2017 en Corée du Sud. La nomination a été effectuée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ou l'UNESCO, l'organisme des Nations Unies chargé de la coopération dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture. Le certificat d'UNESCO a été reçu par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, de l'ambassadeur d'Indonésie en France, en tant également la délégation permanente de l'Indonésie auprès de l'UNESCO, Hotmangaraja Panjaitan, au ministère des Affaires étrangères, Jakarta, mardi. Dans un communiqué de presse reçu par la voix de l'Indonésie, Madame Retno Marsudi a déclaré que l'établissement du bateau Pinisi en tant qu'héritage culturel immatériel mondial est une grande fierté pour l'Indonésie. Retno Marsudi a rappelé que cette détermination n'est pas l'objectif ultime, mais seulement un moyen de soutenir la préservation de la culture nationale. Selon elle, chaque décision de l'UNESCO doit être suivie d'une bonne politique de préservation, y compris l'éducation de la communauté. Dans ce cas, le ministère des Affaires étrangères continuera à travailler avec les parties prenantes pour préserver la culture et la richesse naturelle nationale. La reine Maxima des Pays-Bas a fait une visite de travail en Indonésie du 11 au 13 février 2018. La reine Maxima, comme envoyée spéciale de l'ONU pour la finance inclusive, a mené une réunion avec la ministre coordination pour le développement humain et culturel, Madame Puan Maharani, mardi le 13 février à Jakarta. Après la réunion, Puan Maharani a expliqué aux médias qu'elle appréciait la finance inclusive en Indonésie et à partir de sa première arrivée jusqu'à sa visite cette fois-ci, il y a beaucoup de progrès réalisés en Indonésie où la fourniture d'une assistance sociale à la communauté a été faite non caisse. La ministre Puan a donné un exemple. Le ministère de la Coordination du Développement Humain et de la Culture de l'Indonésie a été distribué la carte intelligente à 19,7 millions d'élèves via les banques gouvernementales ou non cash. Elle a ajouté que la fourniture d'une assistance de programme de la famille prospère à 10 millions de mères a également été distribuée non cash. En outre, l'aide alimentaire non cash aux familles bénéficiaires est également distribuée par l'intermédiaire des banques publiques. Par conséquent, la reine Maxima a apprécié les finances inclusives en Indonésie qui a progressé 3 fois au cours du court terme.
Ratu Maxima sangat mendukung keuangan inklusi yang ada di Indonesia dan berharap bahwa ke depannya itu.
La reine Maxima soutient fortement les finances inclusives en Indonésie et espère qu'à l'avenir, l'Indonésie, en tant que très grand pays, peut effectivement mettre en œuvre les finances inclusives qui sont plus systématiques et programmées, afin que par nom, par adresse, dont l'accès soit mieux accepté par les bénéficiaires. Et bien sûr, elle a apprécié ce que l'Indonésie a fait avec ses finances inclusives. En fait, elle espère qu'à l'avenir, les finances inclusives dans ce pays seront plus grands et peuvent être plus simples que maintenant. Selon Puan Maharani, la reine Maxima, lors de la réunion, a également déclaré que ce qui était le plus nécessaire est la connectivité entre les régions ultra-périphériques à l'avant-garde de l'Indonésie où l'aide sociale n'est pas acceptable correctement. Selon la reine Maxima, il vaudrait mieux que le gouvernement vienne aux gens par rapport à ceux qui viennent aux banques. À l'avenir, le gouvernement fournira 47 000 e-warung où les gens bénéficiaires du programme de la famille prospère pourront faire leurs achats en ligne. Et la dernière visite de la reine en Indonésie a été faite en 2016. Le rapatriement et le retour des réfugiés ethniques rohingyas du Bangladesh au Myanmar sera bientôt imminent. À cette fin, l'Indonésie a proposé d'aider au processus de rapatriement. Surtout maintenant, le Myanmar a été disposé à accepter l'Indonésie après avoir été précédemment rejeté en raison de l'Indonésie à approuver la résolution publiée par les Nations Unies. Comme affirmé l'ambassadeur indonésien au Myanmar, M. Ito Sumardi, à l'équipe de presse le mardi à Jakarta.
Indonesia tentunya berharap repatriasi ini bisa berlangsung dengan lancar dan aman dan damai.
Premièrement, bien sûr, l'Indonésie espère que ce rapatriement pourra se dérouler en douceur, en toute sécurité et de façon pacifique dans le cadre de la processus de réconciliation. Deuxièmement, l'Indonésie offre certainement sa contribution à ce rapatriement dans lequel elle est disposée à accepter. Au début, ils étaient contre, peut-être dessous quand tout à coup l'Indonésie, qui avait soutenu, a brusquement approuvé la résolution. Mais on donne une raison pour laquelle nous approuvons la résolution en tant qu'amis pour faire un équilibre. Ito Sumardi a ajouté, lié au processus de rapatriement qui sera mis en œuvre dans un proche avenir, il y a la possibilité que la maire indonésienne des affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, ou le ministre coordinateur des affaires politiques, sécurité et juridique, M. Wiranto, ont fait une réunion avec le chef de Myanmar, Aung San Suu Kyi. Concernant des sanctions imposées par l'ONU, l'Indonésie demande également que les sanctions imposées au Myanmar soient aussi objectives que possible sur la base des faits existants. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le Maroc a exprimé son désir de renforcer la coopération avec l'Indonésie dans divers domaines, notamment économique, politique et social. En outre, le Maroc a également exprimé son désir de devenir un pays partenaire de dialogue sectoriel de l'ASEAN de la région africaine. C'est ce qu'a déclaré le vice-ministre marocain des Affaires étrangères, Mounia Boucheta, à l'équipe de presse, avoir tenu une réunion bilatérale avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, A.M. Fahir, à Jakarta, mardi.
Okay, we have a very fruitful meeting with His Excellency Vice Minister. We have the opportunity to
Nous avons une discussion très fructueuse avec son excellence A.M. Fahir. C'est l'occasion de confirmer les bonnes relations que nous avons entre l'Indonésie et le Maroc. Et notre volonté est de renforcer cette coopération pour couvrir de nombreux domaines, même économiques, politiques et sociaux. C'était aussi l'occasion pour nous, notre visite aujourd'hui, de soumettre notre candidature en tant que partenaire de dialogue sectoriel dans les pays de l'ASEAN. Le Maroc accorde un grand importance de la coopération avec les pays asiatiques du Sud-Est et nous voulons créer une réelle valeur ajoutée avec un impact sur la population de ces pays. Mounia Boucheta a ajouté que le Maroc était très intéressé à devenir le partenaire stratégique de l'ASEAN. Bien que l'Indonésie et le Maroc aient jusqu'ici eu de bonnes relations bilatérales, il serait très bon que les deux pays soient également intégrés dans des communautés régionales importantes comme l'ASEAN. Jusqu'à présent, le Maroc est devenu un partenaire ou une représentation dans 5 pays de l'ASEAN, notamment l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam. L'ambassade de la République d'Indonésie à Singapour continue à améliorer la compétence des marins ou des membres d'équipage d'Indonésie qui ont effectué l'activité de monter à bord du navire et embarquer à bord du navire ou sign-on, sign-off à Singapour. Les efforts pour augmenter la compétence sont faits à travers fourniture de la carte de travailleur indonésien à Singapour ou KPIS qui facilitera les marins indonésiens dans ce pays l'accès à la formation professionnelle après avoir terminé la voile. Cela a été déclaré par l'ambassadeur indonésien à Singapour, M. I. Gede Ngurah Swajaya, au journaliste à Jakarta, lundi.
Tahapan berikutnya, kita ada pelaut. Pelaut itu yang sign on, sign off di situ sekitar 20 ribu.
Notre prochaine étape est les marins. Les gens de mer qui sont sign on, sign off, environ 20 000 jusqu'à 30 000. La prochaine étape, nous allons aux marins, bien cela continuera à se développer. Ainsi, les marins indonésiens qui travaillent à bord des navires de Singapour, ils montent et descendent à Singapour par sign-on, sign-off, par l'ambassade d'Indonésie à Singapour. Nous donnerons aussi la carte comme KPIS aux marins qui leur faciliteront l'accès aux compétences. Ils doivent toujours améliorer leurs compétences. Selon l'ambassadeur Ngurah Swajaya, la carte des travailleurs indonésiens à Singapour est l'une des formes de service et de protection aux citoyens indonésiens qui deviennent des travailleurs à Singapour. En plus de faciliter l'accès à la formation professionnelle via la propriété de KPIS, les marins indonésiens à Singapour peuvent également accéder facilement à l'assurance d'emploi au BPJS d'emploi du gouvernement indonésien. Le programme de la carte de travailleurs indonésiens à Singapour au KPIS aux marins indonésiens à Singapour est une continuation de la fourniture de KPIS aux travailleurs migrants indonésiens à Singapour depuis décembre 2016. KPIS est connecté numériquement au programme Start Ambassade appartenant de l'ambassade d'Indonésie à Singapour qui contient un certain nombre de fonctionnalités telles que la surveillance de l'emplacement des travailleurs indonésiens, divers services consulaires, l'accès bancaire indonésien en coopération avec Banque Negara Indonesia 45, la formation et l'éducation, y compris l'assurance. Le ministre du Commerce de la République d'Indonésie, M. Enggar Tiarto Lukita, a eu l'occasion de rencontrer les diplomates indonésiens, à la fois l'ambassadeur et le consul général, mardi 13 février au ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie à Jakarta pour la réunion de travail des représentants indonésiens. À cette occasion, Enggar Tiarto Lukita a transmis sa demande aux diplomates indonésiens pour continuer le projet d'accord commercial préférentiel au PTA et d'accord de libre-échange au FTA de divers pays. Selon lui, le soutien et l'assistance du ministère indonésien des Affaires étrangères jouent un rôle majeur dans la performance du ministère du Commerce lié Le Commerce International.
Ya, kita meminta bantuan, meminta tolong mereka untuk
We nous demandons leur aide de continuer le projet de notre FTA et PTA. Alors, en dehors de la liste des 10 pays et des 9 pays, ils ont une demande bilatérale. Madame la ministre des Affaires étrangères a dit que ses ambassadeurs vont aider pleinement et je recense le soutien et l'aide du ministère des Affaires étrangères parce que sinon, ce n'est pas possible. À la même occasion, Engartia Stolokita a également expliqué que lors de la réunion de travail du représentant de la République d'Indonésie, il a également affirmé aux diplomates indonésiens de diverses questions commerciales qui devraient être anticipées par l'Indonésie. Les questions liées aux efforts d'accroître les exportations indonésiennes. En outre, il a également expliqué la performance économique de l'Indonésie ainsi que toute la marchandise ont dominé les exportations indonésiennes à l'étranger. La performance indonésienne en 2017 est assez bonne avec un excédent et une croissance qui augmentent beaucoup que les années précédentes. Cependant, l'augmentation de l'excédent et de la croissance économique reste inférieure à celle des autres pays de l'ASEAN. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « L'impact de la visite de Mahmoud Abbas en Russie ». La visite du président palestinien Mahmoud Abbas en Russie peut-être pourra ouvrir la possibilité pour la solution du problème de la Palestine et l'Israël. Par conséquent, quel que soit le résultat, la visite de Mahmoud Abbas et sa rencontre avec M. Poutine est le nouveau chapitre dans la lutte palestinienne pour maintenir l'existence du pays et gagner la reconnaissance mondiale pour les Nations Unies. Dans ses entretiens avec Vladimir Poutine, le président palestinien attend l'augmentation du rôle de la Russie dans la question israélo-palestinienne. Le président palestinien très probablement demandera à Poutine de devenir un médiateur dans le processus de négociation israélo-palestinien en remplaçant le rôle des États-Unis. Comme on le sait depuis la déclaration de Donald Trump à déplacer son ambassade à Jérusalem, la Palestine et les pays qui soutiennent la lutte palestinienne rejettent Washington comme médiateur des négociations. Mahmoud Abbas va également profiter de sa rencontre avec Poutine d'obtenir le soutien de la Russie plus largement au sein des Nations Unies afin que la Palestine devienne le membre de cette organisation. Jusqu'à présent, aux Nations Unies, la position de la Palestine est l'observateur. Mais sa position est plus forte. Cela est prouvé par la victoire de la majorité des membres de l'Assemblée générale à rejeter la décision des États-Unis de déplacer son ambassade à Jérusalem. Le rejet de presque tous les membres de l'ONU a été fait lors de la récente session de l'Assemblée générale des Nations Unies. La question, est-ce que Vladimir Poutine accepte la proposition de Mahmoud Abbas pour que la Russie puisse devenir un médiateur des négociations israélo-palestiniennes. Des considérations géopolitiques, peut-être la Russie répond à cette demande, y compris la position de la Russie à fournir un soutien aux Palestiniens au Forum des Nations Unies. La Russie pourrait en effet espérer renforcer son rôle au Moyen-Orient, notamment dans la carte politique liée au conflit palestinien d'Israël. Ce rôle pourrait encourager l'amélioration de la position de la Russie dans la région du Moyen-Orient. Mais il faut se rappeler que la Russie est aussi l'un des alliés importants d'Israël. Et dans la politique, partout, l'expression « pas de repas gratuit » restera en figure. Par conséquent, en continuant à obtenir le soutien de la Russie, les Palestiniens ne peuvent pas desserrer le soutien d'autres pays qui ont soutenu depuis le début de la lutte palestinienne. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers auditeurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement le 14 février 1945, la rébellion de Péta, armée des volontaires défenseurs de la patrie contre le Japon à Blitar, conduit par Supriyadi. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air ou Armée des volontaires défenseurs de la patrie, plus souvent désignée sous l'acronyme PETA, est une unité paramilitaire formée par l'armée japonaise au cours de l'occupation japonaise des Antilles néerlandaises. Le 3 octobre 1943, une déclaration Osamu Seire, numéro 44, publiée par le commandant de la 16e armée japonaise, le lieutenant général Kumakichi Harada, annonce la formation de PETA comme armée de volontaires. Les soldats de PETA ont joué un rôle dans la guerre d'indépendance d'Indonésie. Quelques dirigeants nationaux qui sont réunis au sein de PETA, entre autres, l'ancien président Suharto et le grand général Sudirman. Le 14 février 1945, des éléments de PETA de Blitar, sous le commandement de Supriyadi, se soulevèrent. L'insurrection est calmée à l'aide des troupes de PETA et le Heiho. Le 18 août 1945, le lendemain de la déclaration d'indépendance, les autorités japonaises annoncent la dissolution des unités de PETA. Supriyadi, le chef des forces rebelles, manquant dans cet incident. Mais, selon le chef opérationnel Muradi, Supriyadi reste avec l'armée jusqu'au dernier moment. Ils sont tous à la fin jugés et exécutés. En souvenir des soldats de PETA, un monument a été érigé à Bogor et inauguré le 18 décembre 1995. L'autre information est sur le premier des 24 satellites du système de positionnement global émis en orbite le 14 février 1989. Le système de positionnement mondial, ou GPS, est un système américain de radionavigation basé dans l'espace qui propose aux usagers civils des services de géolocalisation, de navigation et de référence temporelle fiable 24 heures sur 24 et dans le monde entier gratuitement. Il suffit d'être équipé d'un récepteur GPS pour connaître la position et la référence temporelle d'un objet. Le GPS fournit des informations précises en matière de positionnement et de référence temporelle à un nombre illimité de personnes sous toutes les conditions météorologiques, de jour comme de nuit, partout au monde. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. L'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri a été tué par une voiture piégée 14 février 2005. Rafik Baha Eddine Hariri est un homme d'affaires milliardaire et est le premier ministre du Liban pendant deux fois avant sa démission le 24 août 2004. Hariri devient le premier ministre de 1992 à 1998, puis réélu en 2000 jusqu'à 2004. Dans les années 1980, Hariri est entré dans la liste de 100 personnes les plus riches du monde par le magazine Forbes. Le 14 février 2005, Rafik Hariri est tué, y compris 9 autres personnes, quand environ 300 kg d'explosifs a explosé au moment où son convoi est passé devant l'hôtel Saint George à Beyrouth. Serviteur, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Sekretar Polar Biksibang ke Wasidong ke Mong Indonesia yang pukul titre la croissance de la valeur manufacturière ajoutée de l'Indonésie est plus élevée dans l'ASEAN. L'Indonésie est considérée comme la plus grande base de production manufacturière de l'ASEAN. Selon le ministre de l'Industrie Airlangga Hartarto, cela correspond aux efforts actuels du gouvernement pour transformer l'économie afin de se concentrer sur le développement des industries et transformations non pétrolières et gazières. Ainsi, l'industrie indonésienne est déplacée de la production de base à la fabrication. Le ministre Airlangga Hartarto, dans une déclaration écrite à Jakarta dimanche, a déclaré que la fabrication est une clé importante pour stimuler l'économie nationale car il est plus productif et donne un large effet de chaîne. Il a également déclaré que l'industrie pourrait augmenter la valeur ajoutée des matières premières nationales, absorber beaucoup de main-d'œuvre, générer des devises étrangères à partir des exportations et contribuer les plus grandes taxes et droits d'acquis. Par conséquent, le ministre Airlangga a rappelé que l'Indonésie n'exportait pas continuellement les ressources naturelles brutes sans traitement. Le ministre de l'Industrie a expliqué que la croissance de la valeur ajoutée manufacturière ou la croissance de la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière indonésienne occupe la position la plus élevée parmi les pays de l'ASEAN. La croissance de la valeur ajoutée manufacturière de l'Indonésie pourrait atteindre 4,84%, tandis que dans l'ASEAN, elle atteigne de 4,5%. Au niveau mondial, l'Indonésie est actuellement classée 9e au monde. Le ministre Airlangga a déclaré que l'économie indonésienne est différente des autres pays de l'ASEAN car l'Indonésie a été incluse dans le club d'un trillion de dollars qui est marqué par le produit intérieur brut indonésien qui dépasse la valeur d'un trillion de dollars américain. À cette fin, le gouvernement se concentre sur l'approche de la chaîne d'approvisionnement industriel national pour être plus compétitif au niveau national, régional et mondial. Selon lui, 80% de la force économique de l'Indonésie est basée sur le marché intérieur et le reste sur les exportations. Ce n'est pas même que Singapour ou le Vietnam qui est presque entièrement axé sur l'exportation. Cependant, les possibilités d'exportation de l'industrie manufacturière indonésienne sont encore largement ouvertes, en particulier sur le marché de l'ASEAN. Un total de 50 usines indonésiennes ont été opérées au Vietnam et en Thaïlande. Le potentiel des exportations nationales pourrait être encore amélioré principalement par la mise en œuvre de la communauté économique de l'ASEAN. Certaines entreprises ont également ouvert de nouveaux marchés comme au Nigeria. Le ministre de l'Industrie a ajouté que le gouvernement s'efforce à améliorer certaines réglementations pour augmenter les exportations indonésiennes. Par exemple, le ministère de l'Industrie a proposé au ministère des Finances de réviser les taxes afin que les berlines ne soient plus incluses dans la catégorie des véhicules de luxe. Selon lui, si le taux d'imposition de la valeur ajoutée des produits luxueux peut être diminué et équivalent à d'autres types de produits automobiles, le prix de vente sera plus abordable pour le marché indonésien. En outre, les fabricants nationaux d'automobiles produiront beaucoup de types de berlines pour répondre aux besoins du marché d'exportation. L'une des cibles est l'Australie, car de nombreuses usines automobiles y sont fermées. Serviteur, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver à nouveau dans le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à présenter l'une des destinations touristiques à Nusa Tenggara Est. Alors, soyez toujours avec nous. Vous pouvez suivre les émissions de la Voix de l'Indonésie, le service international de RRI, soit sur OnCourt, soit vous pouvez nous écouter sur www.voi.co.id. La province de Nusa Tenggara Est, ou NTT, est bien connue avec des destinations touristiques. Outre l'île de Komodo, la beauté des plages et la vue exotique sous-marine deviennent des destinations touristiques. Mais il y a beaucoup de destinations touristiques qui sont encore naturelles et cachées. L'une d'elles est la cascade de Matayang. La cascade de Matayang se compose de deux cascades. La première cascade a une hauteur d'environ 75 mètres et son nom provient de la rivière dans la grotte. La deuxième apparaîtra quand la saison des pluies arrive. Son nom provient d'une rivière au-dessous avec la hauteur de 130 mètres. Juste en dessous de la cascade, il y a une petite piscine avec une eau bleue incroyable comme lieu de baignade. Le meilleur moment pour visiter la cascade est au moment de la saison des pluies ou en mars jusqu'en juin et d'octobre à décembre. La cascade de Matayang est située au parc national de Manupe. La cascade elle-même, pour les populations locales, est un lieu sacré. Ce lieu est souvent utilisé pour le culte par les gens Merapu. Ils croient que la cascade est l'endroit où vivent leurs ancêtres. En outre, ils croient que dans la grotte qui devient une source d'eau, il y a une ancienne tombe qui stocke des objets historiques. La cascade de Matayang est située au village de Waimanu, sous-communauté de Katikutana, la résidence de Sumba Central. Pour aller à cet endroit, à partir de Kupang, vous prenez environ une heure en avion à Waingapu. Ensuite, le voyage se poursuit en utilisant des véhicules à moteur d'environ 2 heures jusqu'à Waikabubak. Arrivé à Waikabubak, le voyage se poursuit au parc national de Manupe et prend environ 3 heures. Ici, vous devez traverser la forêt environ une heure. Mais votre fatigue disparaîtra après que vous voyez la beauté de la cascade de Matayang. Serviteur, c'était le magazine culturel pour aujourd'hui avec le titre « La cascade de Matayang ». Merci d'avoir écouté et au revoir.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien. Un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne qui vous guide de parler l'indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture indonésien. Le sujet d'aujourd'hui est makanan dan minuman. Je répète, makanan dan minuman, ou en français, nourriture et boisson. Maintenant, je vais donner un exemple de conversation entre Sinta, Tony et l'hôtesse de l'air. Tony, maaf, ba, en français, Mbak, désolé. L'hôtesse de l'air? Ya. En français? Oui. Tony, boleh saya minta jus jeruk? Boleh saya minta jus jeruk? En français, puis-je avoir du jus d'orange? L'hôtesse de l'air? Pakai es atau tidak? Pakai es atau tidak? En français, avec la glace ou non? Tony, ya, pakai es. Ya, pakai es. En français, oui, avec la glace. Cinta, ya, saya juga. Ya, saya juga. En français, ah oui, moi aussi. L'hôtesse de l'air, baik, sebentar ya, ini jus jeruknya, Pak. Baik, sebentar ya, ini jus jeruknya, Pak. En français, eh bien, juste une minute. C'est du jorong, monsieur. Tony, terima kasih banyak. En français, merci beaucoup. L'hôtesse de l'air, kembali. En français, de rien. Comme d'habitude, je vais présenter le vocabulaire et expressions reliant la conversation d'aujourd'hui. Jus. Jus. En français, jus. Jus jeruk. Jus jeruk. En français, jus d'orange. Boleh saya minta jus jeruk? Boleh saya minta jus jeruk? En français, puis-je avoir du jus d'orange? Es. Es. En français, glace. Pakai es atau tidak? Pakai es atau tidak? En français, avec la glace ou non? Teh hangat. Teh hangat. En français, thé chaud. Kopi. Kopi. En français, café. Baik, sebentar ya. Baik, sebentar ya. En français, eh bien, juste une minute. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. En français, merci beaucoup. Si vous voulez demander quelque chose, dites boleh saya minta. En français, puis-je demander? Et suivi avec ce que vous voulez. Comme par exemple, Tony, boleh saya minta teh hangat? Boleh saya minta teh hangat? En français, puis-je avoir du thé chaud? L'hôtesse de l'air? Baik, sebentar. Baik, sebentar. En français, eh bien, juste une minute. D'autres exemples. Tony, boleh saya minta jus jeruk? Boleh saya minta jus jeruk? En français, puis-je avoir du jus d'orange? L'hôtesse de l'air. Baik, Pak. Baik, Pak. En français, bien, Pak. Dans une conversation entre Tony et l'hôtesse de l'air a donné la réponse « Baik, pas ». Cette réponse est généralement prononcée dans le contexte du service, comme par exemple l'hôtesse de l'air aux passagers des avions, les serveuses aux invités dans les restaurants ou des subordonnés aux supérieurs. Cependant, si votre ami qui demande, par exemple, demande du café, boleh saya minta kopi? Boleh saya minta kopi? En français, puis-je demander du café? Vous pouvez répondre ya, boleh. Ou simplement boleh. Comme par exemple, Tony, Cinta, boleh saya minta tisu? Sinta, boleh saya minta tisu? En français, puis-je demander un mouchoir? Sinta, boleh? Boleh. En français, oui? Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui vous voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous à la semaine prochaine. Merci et au revoir.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des chansons indonésiennes. Et cette fois, nous avons déjà sélectionné des chansons pop chantées par groupe de musique Raja, provient de Banjarmasin, Kalimantan du Sud. Il a été formé le 17 mars 2010, composé de Ian Kasela comme chanteur, Moldi guitariste, Suma bassiste et Adit batteur. Raja en français est le roi. Il utilise le nom du roi dans l'espoir qu'un jour, le groupe serait le roi dans le musicien en Indonésie. Bon, chers amis, écoutons maintenant la première chanson intitulée Honnête.
Bukanlah bila kau ada cinta.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. C'était la première chanson intitulée « Honnête » chantée par groupe de musique Raja. La chanson « Honnête » ou en indonésien « Jujur » est l'une des chansons célèbres du groupe Raja qui a été formé à Banjarmasin 17 mars 2010. Raja se compose de trois personnes. En 2003, la formation de Raja a changé avec l'entrée de Indra en tant que bassiste remplaçant Suma Eseno, remplaçant Adit en tant que batteur. Raja a commencé à être connu avec divers hits, y compris Honnête et Cendrillon. Chers amis, écoutez maintenant d'autres chansons de Raja intitulées Cendrillon. Groupe musique de Raja est assez productif parce que depuis sa fondation en 2001, il a produit 12 albums. Bien que ses offres soient bien reçues par les fans, Raja ne peut pas garder l'unité des membres. En 2010, Indra et Seno ont quitté Raja car ils ont voulu créer un nouveau groupe de musique. Mais en 2015, Raja revient avec une formation précoce, y compris Indra et Seno, ajoutés par quelques autres personnels. Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, nous allons présenter les deux dernières chansons intitulées « Déteste de dire l'amour »« J'existe parce que tu existes ». Tous les deux sont chantés par Raja. Merci à tous et à bientôt.
Namun ternyata tak ada beda. Kau anggap mudah yang menurutku salah, hingga aku menyangka diri ini bagaikan tak berarti di matamu. Bila kau malam gelap, aku bintangmu. Kuterangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Dadadam, dadadah, dadadam, dadadah, dadadam, dadadah. Bila kau malam gelap, aku bintangmu. Terangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
C'était des chansons indonésiennes, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9.5 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.